Mardi 15 septembre, jour de keynote, on sera en direct et en vidéo avec vous mardi dès 18h30. Mais l'iPhone 12, ce sera pour plus tard. Alors une keynote, oui, mais pour quelles annonces? Le test de la semaine, RX8 d'Isotope, le Photoshop du son, un logiciel magique qui efface même les coups de Mediator sur les cordes de guitare. Je vais vous faire écouter. Ma maison connectée, les thermostats connectés pour faire baisser sa facture de chauffage, l'IFA et ses nouveautés pour l'écosystème Apple, Bruno Le Maire qui a raté une occasion de se taire, mais Gilles, lui, ne va pas le rater, et puis le dictaphone qui retranscrit tout ce que vous dites, ce sera le tuto audio de la semaine. iWeek, la semaine Apple, épisode 3, Benjamin Vincent au micro, toute la team avec moi, bienvenue à vous, top générique. Jeudi 10 septembre 2020, bonjour à chacun de vous, merci d'être au rendez-vous de cet épisode 3 enregistré mercredi soir. D'abord, merci pour votre accueil. En 8 jours, iWeek, la semaine Apple, est devenue le premier podcast tech de France sur Apple Podcast. Oui, numéro 1 au classement des podcasts tech. Et ça dure depuis presque une semaine, malgré la rentrée de nos petits camarades, malgré la puissance des grandes radios comme France Info ou RMC. Et donc, abonnez-vous pour faire durer le plaisir, le nôtre, le vôtre, c'est notre récompense à tous. iWeek, la semaine Apple, le podcast est dispo sur toutes les plateformes, Apple Podcast bien sûr, mais aussi Spotify, Deezer, TuneIn, Overcast, etc. Sans oublier Google Podcast si vous êtes sous Android, ce qui arrive paraît-il même au meilleur. Vous nous écoutez, c'est génial et vous nous le dites, continuez comme ça avec vos 5 étoiles et avec les quelques mots top que vous écrivez sur Apple Podcast. Quelques-uns de ses avis pour vous donner une idée. Dazoudaz a écrit 5 étoiles car émission de qualité, continuez comme ça. Lolo Bis, nouveau format et on adore toujours autant cette émission. Super Nego, podcast de grande qualité et très diversifié autour du monde Apple, à recommander à toutes et à tous. Et puis sans doute le meilleur pour la fin, même Tim Cook est abonné. Alors moi je l'aurais jamais dit. Happy21, merci d'avoir révélé ce grand secret. Et donc, soutenez-nous, faites pareil, faites comme team. Oui, faites comme team, on a besoin de chacun de vous. Bonjour les amis qui êtes en ligne, bonjour.
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 Bonjour Benjamin.
Alors avec moi pour cet épisode 3, la team iWeek, salut Gilles.
Salut Benjamin, bonjour les amis.
Gilles Dounès, iWeek évidemment, et aussi iEditorialist sur MacPlus.net. François Le Truédic, salut François.
Hi team, hi Benji.
Hi. Elia Bitbol, MCS Group, bien sûr, à Nice et à Cannes. Salut Eli.
Buenas noches.
Buenas noches, señor. Et puis Jean-Christophe Vigne, il va nous rejoindre. Il n'est pas là pour le début, mais il va nous retrouver en cours d'émission. Alors si je vous dis les amis, J-5, hein, on n'y croyait pas au jeudi 10 septembre. On vous l'a dit la semaine dernière et on vous a expliqué pourquoi. On avait un peu raison. La première keynote de cette rentrée aura donc lieu mardi prochain, le 15 septembre. Et on vous donne déjà rendez-vous le 15 septembre, dès 18h30 heure française, pour un iWeek, la semaine Apple spéciale keynote, en direct et en vidéo, les amis, comme au bon vieux temps, sur Watch et Oui. Toutes les infos à venir sur Twitter. Alors pour savoir comment passer cette folle soirée du 15 avec nous, followez le compte iWeek News sur Twitter et tweetez avec le hashtag iWeekLSA. LSA comme la semaine Apple. Ce qui est sûr, c'est que le live de cet iWeek spécial keynote sera sur la home du futur site iWeek.news. Vous en retrouverez aussi les meilleurs moments sous la forme d'un podcast audio bonus dans les heures qui suivront. Et puis le débrief intégral, ce sera comme d'habitude le jeudi vers 20h dans ce qui sera l'épisode 4 d'iWeek, la semaine Apple. Une semaine qui s'annonce donc magnifiquement chargée, les amis. Cette keynote à venir mardi prochain, ce sera dans un instant le sujet de l'info de la semaine, bien sûr. Alors qu'une partie des médias assure que l'iPhone 12 sera bien dévoilé mardi prochain. Alors vous avez voté hein, sur le sujet, on en discute dans un instant. Dans un gros quart d'heure, le test de la semaine dans iWeek. Le top du top pour réparer vos fichiers audio, un logiciel pour Mac qui est vraiment magique, qui vient de débarquer dans sa 8e version majeure, c'est RX8 d'Isotope. Je vais vous faire écouter de la magie tout à l'heure. C'est tout nouveau et ça sort cette semaine directement de l'IFA à Berlin, la veille orientée produit de l'écosystème Apple. C'est toi notre vigie, Ellie, toujours à la recherche de l'accessoire qui tue. Est-ce que ton panier est plein en ce jeudi ?
Eh bien, écoute, on va dire oui et non, mais on va faire un truc intéressant, ça va être encore normand.
Oui,
mais ça tombe bien parce que quand on dit « I week » et « Lessa », ça peut être aussi « I week » la semaine Android. Je dis ça pour rire, bien sûr,
oui,
parce
bien
que
sûr.
L'IFA, oui, il y avait plein de nouveautés. Apple était très absent de ces nouveautés, mais il y a eu quand même des nouveautés, on va en parler.
Eh ben super. Alors personne ne tient à figurer sur son tableau de chasse. Gilles Dounès désingue tous les jeudis dans iWeek la semaine Apple. C'est la connerie de la semaine. Et oui, ça veut dire qu'il y en a au moins une par semaine. Et cette semaine, Gilles, c'est Bruno Le Maire hein, qui est ton champion.
Oui, ben, s'il y en avait qu'une encore, ça irait. Mais là, c'est effectivement Bruno Le Maire qui s'y est collé et qui a voulu se faire mousser. Qui aurait mieux fait de rester tranquille.
Bon, on verra ça tout à l'heure avec toi, Gilles. Il mettrait les doigts dans la prise pour nous éclairer sur HomeKit, la domotique sauce Apple, ma maison connectée avec toi, François. Alors après le béaba, après les ampoules la semaine dernière, aujourd'hui place au thermostat connecté, et notamment celui de Netatmo, François, c'est ça ?
Et oui, je vais vous parler du thermostat que j'utilise depuis bientôt 3 ans et qui est vraiment super. Et l'avantage aussi avec moi, c'est que même si je mets les doigts dans la prise, les cheveux ne se relèvent pas, fort heureusement.
Ah, c'est bien parce que tu n'as pas de cheveux, pour ceux qui ne le savent pas, enfin en tout cas très très peu, on les compte sur les doigts d'une seule main sans doute. Voilà, ma maison connectée, ce sera autour de 45. Le tuto audio, j'ai trouvé le meilleur dictaphone pour votre iPhone et je vous expliquerai tout dans les 10 dernières minutes de cet épisode. Pour réagir au contenu de cet épisode 3 et pour interagir tout au long de la semaine avec nous, un seul hashtag, c'est une invention d'Elie. iWeek LSA comme la semaine Apple. Alors quelques-uns de vos tweets avec ce hashtag utilisé depuis jeudi dernier, depuis l'épisode 2. Didier Méance, infidèle, numéro passionnant, l'équipe est toujours aussi sympathique, continuez comme ça. Merci beaucoup Didier. Gunther Gerhardt alias Mr. Goo, l'un des réalisateurs de pubs les plus talentueux de sa génération, nous a simplement dit « Félicitations pour votre place de numéro 1, c'est plus que mérité ». Ben moi, je dis merci, Gunther, ça me touche beaucoup venant de toi. Alex, alias Labinocle 0510, vous êtes au top. C'est simple, mais au moins, il y a l'essentiel. Et puis Marcos X, ça montre bien que le retour d'iWeek était plus que nécessaire. Ben oui, apparemment, c'était vraiment nécessaire et on en est très, très, très heureux. Merci beaucoup, Marcos. Pour être tout à fait complet hein, pour cette intro, je voudrais dire merci et saluer nos amis de MacG, Michael Bazoge et toute l'équipe pour leur article sur le retour d'iWeek. Ça fait chaud au cœur. Et puis merci beaucoup MacPlus.net pour le suivi de ce qu'on fait. C'est vraiment adorable. Dans un instant, mardi 15 septembre, 19h, heure de Paris, une keynote Apple. Oui, mais avec quoi dedans ? À tout de suite. Time flies, autrement dit, on ne voit pas le temps passer. C'est le titre de cette keynote du 15 septembre avec un logo, Ellie, que je vais peut-être te laisser le soin de décrire. À quoi ressemble ce logo de la keynote ?
Eh bien, c'est un logo assez joli, en dégradé de bleu, qui, au départ, tel quel, on se demande à quoi il sert, mais on s'est aperçu que c'est un logo qui s'anime, et en fait, ça devient une date. Et ça, c'était la première surprise, mais vous savez, il y a toujours l'effet qui se coule, hein, donc la deuxième surprise après le lapin, c'est que ce logo fonctionne en réalité augmentée. Et donc, des petits malins ont découvert ça, et Apple l'a codé de telle façon qu'avec un logiciel de réalité augmentée, vous pouvez avoir ce logo animé sur votre table de la cuisine, dans votre jardin, dans votre piscine, n'importe où, même sur la tête de François, on pourrait faire un logo animé du plus
Absolument.
Bel effet.
Absolument, et on voit beaucoup de vidéos, et notamment sur Twitter, de fans qui font apparaître effectivement ce logo animé dans leur jardin ou sur la table du salon. Keynote Time Flies, tu parlais de réalité augmentée pour le logo Ellie, ça veut dire qu'il y aura la réalité augmentée, c'est quasiment certain. Peut-être via l'iPad ou peut-être via ces fameuses lunettes, hein, les Apple Glass, nom de code à confirmer, dont on parle depuis 2 ans, 3 ans au moins dans iWeek. Bon, rien n'est sûr du tout, on est d'accord. Surtout pas au sujet de l'iPhone 12. Alors, traditionnellement, cette keynote du début septembre, c'est la keynote de l'iPhone. Mais on vous a expliqué la semaine dernière pourquoi il nous semble peu probable qu'Apple dégaine son nouvel iPhone dès la semaine prochaine, sachant qu'il ne serait disponible, Eli, quoi, au mieux, mi-octobre, fin octobre, début novembre ?
Le lancement, d'après tous les sites, se passerait en deux phases, une partie en octobre et une partie en novembre.
Voilà, et Jean-Christophe faisait partie de ceux qui disaient la semaine dernière qu'ils ne voyaient pas une annonce à plus d'un mois de la dispo des iPhones. On était à peu près tous d'accord là-dessus, je crois, hein, les amis. Gilles, je crois que tu voulais revenir sur un détail qu'on évoquait la semaine dernière.
Oui, apparemment, ce serait les deux modèles avec une dalle de 6,1 pouces qui seraient disponibles en premier et les deux autres tailles seraient disponibles ultérieurement.
D'accord, ok. Alors, on vous a posé la question via Twitter, hein, chers amis. C'était le sondage iWeek de la semaine. La question, croyez-vous que l'iPhone 12 sera dévoilé pendant la keynote Apple du 15 septembre prochain ? Alors, vous avez répondu majoritairement oui, mais avec une courte majorité, hein, 55%. 36% ont répondu non et vous êtes 9% à avoir choisi « Je crois ce que je vois ». 80 votes en tout. Merci beaucoup et rendez-vous mardi prochain pour ce sondage dont nous vous donnons les résultats dans l'épisode du jeudi. Alors, on va commencer par faire un sort à l'iPhone 12, hein, avec 50% de chance de se tromper, je crois. Mais c'est pas grave, faut prendre des risques dans la vie. En tout cas, sur les bases les plus solides possibles. On vous a déjà expliqué nos arguments la semaine dernière. Depuis 48 heures, moi, je ne compte plus quand même les tweets qui annoncent que l'iPhone 12 sera bien présenté mardi prochain. Ça vous surprend que tant de sources, et certaines sont quand même assez, assez puissantes, assez, assez historiques, nous annoncent l'iPhone 12 pour mardi? Ça vous fait douter?
Non, personnellement, j'y crois. Pour une raison simple.
Tu crois
oui,
à quoi?
Oui, je crois qu'il y aura une annonce iPhone, je peux me tromper,
ah bon,
hein, bien sûr. Bah écoute, oui, c'est, en fonction des dernières infos, ça devient plus plausible parce qu'en fait, ces produits ont déjà été tellement préannoncés que le risque de dire, bah, si on fait une annonce et que ce n'est pas disponible 10 jours après, ça va bloquer des ventes, bah, tout le monde sait maintenant qu'il y a une annonce et même Apple a dit qu'il y aurait une annonce en deux temps. Donc, annoncer le 15 septembre qu'il y aura deux iPhones sur quatre qui seront disponibles, admettons, vers mi-octobre, très bien, ça ne me dérange pas, en même temps que le reste des produits qui feront partie de l'annonce et qui étaient prévus pour faire partie de cette annonce. Ce qui laisserait la place à une deuxième keynote dont on a parlé aussi, qui, elle, interviendrait peut-être fin octobre, toute fin octobre, et qui parlerait peut-être des iPhones haut de gamme, mais aussi peut-être des iPad Pro et des lunettes Apple de réalité augmentée. Voilà, c'est une possibilité.
Si Apple scindait les annonces iPhone en deux keynotes, ce serait du jamais vu. Hein.
Ouais. C'est vrai, mais de notre côté, faire trois keynotes en deux mois, ça serait du jamais vu aussi.
Ouais. Bon, en tout cas, il y en a un qui n'y croit pas du tout. Hein. C'est notre confrère de Bloomberg, Mark Gurman. Pour lui, c'est clair, il n'y aura pas d'iPhone 12 le 15 septembre. C'est marrant parce que je crois qu'on n'a jamais été aussi incertain à 5 jours d'une keynote. Ça laisse pas mal de possibilités et de surprises. Alors, à propos de possibilités, il y en a qui ont dressé la liste des possibilités pour cette keynote. Je suis tombé sur un tweet d'Alexei Axel. Il en a listé 11. Alors, je vais vous les donner et je vais vous demander pour chacune vos probabilités. Numéro 1, Apple Watch 6 et Apple Watch SE. Qui veut?
Oui, je dirais oui à 100%.
Oui, c'est
SE, je ne sais pas, mais Apple Watch, oui à 100%.
Non. Éventuellement polycarbonate, mais l'annonce, le Bristol numérique, était suffisamment explicite. Il y a pas de, à ce niveau-là, il n'y a pas de suspense.
Alors, on va parler dans un instant de tous les indices qui se cachent dans le logo et dans l'invitation. Mais on va déjà prendre cette liste-là pour voir sur les 11 ce qui est le plus probable. En numéro 2, iPad Air.
Oui.
Oui.
Tout le monde d'accord. Bon. En numéro 3, iPad 8, une version bon marché.
Peu probable.
Non. Éventuellement, on ne sait pas s'il y aura un iPad Air 4 ou un nouvel iPad d'entrée de gamme. Les rumeurs n'ont pas su déterminer soit l'un soit l'autre.
Ok, numéro 4, Apple TV 4K avec processeur plus rapide et télécommande dédiée à Apple Arcade, donc au gaming.
J'aimerais tellement, mais peu probable.
François?
Non, je pense pas. Même si c'est le hobby préféré d'Apple, je suis pas convaincu. À ce moment-là, ça risque de se diluer avec toutes les autres annonces. Ça peut sortir un mardi avec un petit communiqué de presse, histoire qu'il n'y ait que ça d'annoncé.
En même temps, s'il n'y a pas d'iPhone, faut remplir, hein.
Ouais. Je pense qu'il y aura de quoi remplir avec l'iPad Air, avec l'Apple Watch. Et puis pourquoi pas, je sais pas, ils trouveront bien quelque chose à faire. Dans
Ben
la liste de ce que
justement.
tu as annoncé,
Point numéro 5, AirPod Studio, donc le casque. Ellie, tu fais non de la tête.
Pas la semaine prochaine.
Et pourquoi donc?
Parce que ça pourrait faire partie de la deuxième vague d'annonces un peu plus tard.
D'accord, pour toi, c'est pas prêt donc.
Je ne
Ou
crois pas.
stratégiquement, c'est pas le bon moment.
Il y a un peu des deux.
Un peu des deux. Bon. Numéro 6, HomePod Mini.
Non.
Non. Gilles?
J'y crois à moitié. Enfin, c'est pas impossible, d'autant que on peut s'orienter vers une keynote wearables ou objets connectés en général avec l'Apple TV. C'est une autre possibilité. Et puis, je veux pas anticiper trop sur la liste. Ça dépend de ce qu'il peut y avoir au niveau contenu.
Eh oui.
Ça sent la keynote fourre-tout, hein.
Non, il y aurait une cohérence. Il y aurait une cohérence par rapport à cette nouvelle catégorie d'objets connectés qui représente l'avenir. On a beaucoup dit que Apple n'innovait plus depuis l'iPhone, ce qui est faux. Mais là, on a une vraie grosse nouvelle catégorie d'objets qui a plein d'avenir, quoi.
Bon, d'autant qu'il y en a d'autres dans la liste. Avant ça, il y a quand même un point sur lequel vous allez forcément tiquer, c'est le premier Mac à base d'Apple Silicon.
Ben oui, ça c'est arrivé dans une news très récente d'une source qui est plutôt fiable, hein. C'est pas un site de rumeurs, c'est un site dédié à Apple mais qui sont plutôt sérieux, qui annonce un Mac ARM et qui serait en fait un 14 pouces et non pas le 12 dont on avait déjà entendu parler. Alors si jamais c'était vrai, il faut pas qu'il y ait beaucoup d'autres produits autour parce que du coup là ça ferait une keynote un peu bizarroïde.
Ouais.
Il y a un
T'y
autre
crois,
paramètre.
François, toi, au premier Mac Apple Silicon dans 5 jours?
J'y crois pas et c'est bien parce qu'en parlant, du coup, j'ai des arguments qui me viennent, c'est pratique. Pour une raison toute bête, macOS Big Sur, il est pas prêt. Il arrivera au mois d'octobre. Sauf à ce que ce soit juste une annonce en disant il arrive, mais il arrivera dans un mois ou deux. Moi, à mon
Bien.
avis, les premiers Mac ARM, on les verra avec la nouvelle version de macOS, donc pas avant fin octobre, début novembre, quoi qu'il en soit.
Même après, hein, Tim Cook a dit premier Mac ARM fin d'année. Mais il faut maintenir l'intérêt des développeurs et des clients, puisqu'il l'a déjà dit depuis longtemps qu'il y en aurait un. Donc
Ouais.
il faut un tout petit peu tenir les gens au courant, préciser un peu la pensée. Mais effectivement, annoncer ne veut pas dire dispo, hein, donc dispo fin d'année.
Ouais,
Mais
OK.
on
D'autant que
verra.
les
Mais ça tuerait
d'autant
les MacBook Pro 13 pouces.
Gilles?
Oui, d'autant que les processeurs ARM estampillés Apple Silicon ne seraient dispo en quantité suffisante que à la fin de l'année. Donc à la fin de l'année calendaire. Donc ça serait, il peut y avoir, comme dit Ellie, une présentation, une annonce, une piqûre de rappel pour entretenir la réponse, puisqu'on va parler de vaccins très très bientôt. Mais la disponibilité effective des machines ne risque pas d'arriver avant la fin de l'année, un peu comme ça s'était passé pour certains iMac ou le Mac Pro les autres années. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui, absolument. Bon, ok, donc voilà, une option quand même, pas complètement exclue, mais peu probable, le premier Mac à base d'Apple Silicon. En numéro 8, les fameux AirTags, ces trackers qu'on colle ou qu'on attache à nos objets, nos valises, nos sacs, qui permettent de retrouver tout ce qu'on perd.
Ça dépend du reste.
Ça va avec les objets connectés, il faut voir, d'autant que il y a eu des rumeurs selon lesquelles ça serait pas seulement des objets connectés Bluetooth qui feraient coucou quand on les cherche, mais qui permettraient une représentation en réalité augmentée dans l'environnement de l'utilisateur.
Donc ça aurait un sens par rapport à l'invite et au logo, ça que tu veux dire ?
C'est ça que je veux dire, oui.
Ouais. Bon, en numéro 9, alors, AirPower, donc le serpent de mer depuis 2 ans.
C'est ce que j'allais dire, le serpent de mer Apple. Je n'y crois pas. Je ferai du Saint Thomas. Je croirai à un AirPower lorsque je le verrai.
François, toi qui as acheté un produit sur Kickstarter, de dépit, on va dire.
Sans vouloir te contredire, ça fait même 3 ans qu'on l'attend, le AirPower.
C'est ça. Ah,
je sais, le temps passe.
S'il arrivait, ça ferait waouh, parce qu'on n'y croit plus.
Ça arrivera un jour, mais pas maintenant. Enfin, je pense pas, à la limite, au mois d'octobre. Mais honnêtement, je suis pas sûr qu'ils arriveront à sortir un truc comme ça un jour. On verra. Je vais dire comme Ellie, je crois que ce que je vois.
Bon, et puis il en reste deux. Alors, moi qui me dis pas grand chose, en 10, Apple One.
Ça, oui. Ce serait pas mal.
Mais pas
tu veux
tout
qu'on explique ce que c'est?
Bah ouais, parce que j'ai dû rater un truc. Mais...
Alors en fait, le principe d'Apple One, ce serait de sortir un bundle des services Apple, c'est-à-dire qu'on aurait le droit à de l'espace de stockage iCloud, on aurait le droit à Apple TV+, les séries, le Netflix by Apple, on aurait le droit à Apple Arcade, on aurait le droit à Apple Music, oui, Apple Music, je dis pas de bêtises, et j'ai oublié quelque chose les gars ou pas? Je crois pas. Hein.
Non, c'est pas mal.
Mais justement, on mettrait le 11e, je vais pas griller ton
Vas-y,
ton
tu
conducteur.
Peux, Gilles, je t'en prie.
On mettrait le 11e service dans le bouquet ou le pack haut de gamme, avec éventuellement également du stockage iCloud supplémentaire, avec entre 2 et 5 dollars de remise par rapport à l'achat à l'unité de chaque abonnement. Donc,
mais le 11e, ferait... ce serait
le
service
fitness.
Autour du fitness.
C'est ça. Et quelque chose qui tient beaucoup à cœur de Tim Cook, qui, depuis le départ, les premières annonces, les premiers indices de l'Apple Watch étaient en 2010 ou 2011. Il avait été interrogé dans une réunion avec des journalistes sur l'intérêt des bracelets de genre les bracelets de monitoring de l'activité physique, et il avait dit que ça ne faisait pas sens pour lui, à moins de grouper ça dans tous ces services dans une montre, quelque chose que les gens aimeraient avoir à leur poignet. Moyennant quoi, 15 jours après, je ne sais pas si vous vous souvenez, Samsung avait annoncé en grande pompe par votre communiqué de presse qu'ils allaient sortir une montre connectée.
Ouais. Ellie ?
Alors, un point positif, un point négatif par rapport à ça, c'est que ça aurait du sens en complément de fonctionnalité de la nouvelle Apple Watch, hein, par rapport au fitness qui serait étendu, ou par rapport à la détection de niveau d'oxygène dans le sang et un certain nombre de choses dont on a parlé. Le point négatif, c'est par rapport aux sites qui suivent les embauches chez Apple, il semblerait qu'Apple est en train de staffer ce service Apple One, mais que pour l'instant, ils n'ont pas les gens sur place pour le faire. C'est-à-dire que là, ils cherchent des responsables qui sont en train de débaucher ici et là. Mais quand quelqu'un arrive chez Apple pour développer un nouveau service, il commence par constituer une équipe, par mettre tout à plat, par refaire des plans, etc. Donc, ça me semble court.
Ouais, sans doute.
Moi, je trouve que ce serait le bon moment pour sortir le service fitness. On sort et certains pays, ils sont encore en du confinement, du télétravail, etc. Et les salles de sport, je pense, sont désertées en ce moment à cause de la Covid. Je suis le premier à d'habitude aller en salle de sport, et depuis le Covid, j'y suis pas retourné. Hein. Je préfère m'entraîner à la maison ou m'entraîner dans des lieux espacés à l'extérieur. Et sortir ce service-là maintenant, à mon avis, ça ferait fureur, je pense.
Oui, parce que fitness, oui. Apple One, j'y crois moins. Mais fitness, oui, absolument.
Avant de tourner la page de cette info de la semaine, on sera fixé mardi prochain, on va quand même s'arrêter sur les détails de cette invitation pour la keynote. Ce gros logo à base d'un trait bleu marine, j'ai lu une référence au taux d'oxygénation dans le sang qui pourrait venir s'ajouter à la mesure de l'électrocardiogramme, hein, qui est déjà embarqué dans l'Apple Watch série 5. Est-ce que ça pourrait être une interprétation, à votre avis? Ou est-ce que c'est purement graphique?
Ça fait partie des rumeurs qui circulaient depuis un bout de temps, donc why not, ça pourrait. Ça pourrait.
Le taux d'oxygénation, je ne vois pas pourquoi.
Et pourquoi pas. Non plus, mais ça a sans
pourquoi
doute un intérêt.
Oui, oui. Moi,
si
je pense...
Si un médecin nous écoute...
Bon, alors, en tout cas, sur les indices que cachent le logo et l'invitation d'Apple pour ce spécial event, je vous conseille le papier de Tech Media. Alors, sur 11 indices qui seraient cachés dans le logo, je les ai notés hein, pour vous les donner, c'est pas inintéressant. Si vous regardez ce logo, d'abord, il pourrait faire référence à un nouveau type de cordon. On dit que le cordon de charge ou les cordons Lightning ou USB-C pourraient évoluer, changer peut-être de matière. C'est une première piste. Le bleu marine ferait référence à la couleur d'un des nouveaux iPhones. On parle d'un iPhone Navy Blue. Pas oui. Complètement impossible. Bon, on a parlé de la réalité augmentée, c'est assez évident. Hein. Je pense que c'est vraiment ce qui saute aux yeux et la possibilité que chacun a de faire... entre guillemets, vivre ce logo dans son salon indique bien que ça va être au cœur de la keynote. Vous verrez que dans le logo, il y a quatre boucles. Le logo Apple est formé de quatre boucles qui pourraient faire référence à quatre produits qui seraient annoncés. On voit des sens un peu partout.
On se croirait dans un Nolan. Hein.
Voilà, ce logo dessiné qui aurait pu être dessiné à l'Apple Pencil pourrait laisser supposer que le support d'Apple Pencil arriverait sur iPhone. On n'y croit pas, mais pourquoi pas. Les AirTags dont on parle, ces trackers, on les attend ronds, et ils seraient ronds comme les boucles du logo sur l'invitation. Le AirPower, les boucles rappellent aussi étrangement, et ça c'est vrai, parce que je les ai superposées au graphique qui a servi pour le dépôt du brevet, c'est vrai que les boucles du logo sont exactement identiques aux bobines à induction qui sont sur le diagramme du brevet du AirPower. C'est assez étonnant. La 5G, c'est vrai que quand on regarde attentivement comment le logo et la date se construisent et se déconstruisent, à un moment, si on fait pause, c'est vrai que sur la droite, on distingue un 5. Alors, j'ai pas vu le G, mais j'ai au moins vu le 5. Dans le même ordre d'idée, à un autre moment, on a l'impression de distinguer deux ronds et un trait au milieu, ça pourrait faire référence à des yeux et à un nez, et donc à des lunettes, pourquoi pas les fameuses Apple Glass. En cherchant bien, on peut aussi voir un 6 dans le logo, allusion à la série 6 de l'Apple Watch. Et puis le dernier indice, quand on tourne autour du logo, comme c'est de la réalité augmentée, on peut le regarder de côté, du dessus, et bah, à un moment, si on fait pause et qu'on se met sous un angle bien précis, en fait, les différentes parties du logo donnent vraiment l'impression d'écrire trois lettres qui sont A, I, R, ce qui pourrait faire référence à un nouvel iPad Air. Voilà, au jeu des devinettes, tout ce qui pourrait être caché comme indice dans le logo. Ils ont de l'imagination quand même. Hein.
Oui, alors la question c'est, est-ce que c'est légalisé dans son état, dans l'état c'est... dans lequel il vit?
J'allais dire la même chose. Hein. Il faut que certains créatifs et analystes arrêtent les drogues dures. Hein.
Et la remarque, je suis d'accord. C'est que...
L'article est signé Elisabeth Tessier ou comment ça se passe là c'est...
Non, mais je trouve ça assez balèze parce qu'en plus, c'est agrémenté de capture d'écran et c'est vrai que c'est pas complètement idiot. Hein.
Non, mais c'est de la suranalyse en fait. Hein. Les mecs qui vont aller après regarder les sous-pixels, c'est incroyable. Hein.
Après,
ils peuvent nous envoyer.
Même si la moitié de cette liste est exacte, c'est quand même assez fou parce que.
Ah oui, à force, il va arriver, il va finir par trouver quelque chose qui va rentrer dedans. Mais si on suit, par contre, les contours du fil, c'est impossible à dessiner. Et perso, ça me fait penser à un ruban de Möbius. Où il n'y a pas de devant, enfin de dessus et de dessous. C'est un fil qui est impossible à dessiner d'une seule en continu d'un seul trait.
C'est très juste. Alors, il y a un autre détail, puisqu'on en est au détail, ce sont les métadonnées du futur live stream d'Apple sur YouTube. C'est donc dans le code informatique du flux qui est déjà prêt, hein, d'une certaine manière. Bah, un développeur a trouvé des tags, et dans les tags, on retrouve iOS, on retrouve iPad, mais on retrouve aussi iPhone et on retrouve même MacBook. Et c'est vrai que du coup, ça renvoie à ce que tu disais, Ellie, à la rumeur d'un MacBook, alors peut-être un MacBook 14 pouces, voire d'un MacBook compatible 5G, parce qu'il en a été question ces jours-ci aussi, un MacBook qui serait donc équipé d'un logement pour carte SIM et qui permettrait d'être connecté à très haut débit de partout.
Ma carte SIM ou pas, puisque maintenant on est en plein dans la eSIM, puisque les deux vrai. Derniers en France ont annoncé le support de la eSIM pour le mois de septembre. Hein, donc,
C'est vrai. Donc on peut aussi effectivement prendre un forfait mobile sans avoir à attendre que la carte SIM arrive par la poste. Et puis à la forme, pour finir sur cette keynote, les amis. Depuis le Steve Jobs Theater dit l'invitation, mais apparemment ce sera sans public, comme en juin pour la WWDC, et probablement pas en direct. Est-ce que tu penses, Ellie, que Apple a tiré les conclusions du succès de la keynote du mois de juin?
Oui, absolument. Je crois que là, il n'y a aucun doute. Le Steve Jobs Theater sera vide et les intervenants arriveront soit sur scène pour certains d'entre eux, soit depuis leur labo, mais ça sera des séquences. Ils ne se croiseront pas physiquement.
Oui. François, tu préfères quelle version des keynotes?
Je vais réagir de deux manières. Le fanboy te dirait les keynotes en public, c'est quand même vachement plus sympa au niveau de l'ambiance. Et le fan d'audiovisuel, de petits détails, honnêtement, la keynote de juin, elle était juste magnifique, c'était hyper léché et tout. Ouais. Et je trouvais limite la forme était plus intéressante que le fond. Donc s'ils n'ont pas grand-chose à annoncer la semaine prochaine, j'espère que ça va être... comme au mois de juin, comme ça au moins on pourra s'occuper à regarder les petits détails, les effets de zoom. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était vraiment...
Bien sûr.
Si vous l'avez pas regardé, vous qui nous écoutez, allez jeter un coup d'œil parce que visuellement c'était magnifique. Je sais pas combien d'heures et combien de boulot il y a
des
derrière,
semaines,
mais
je pense, hein, des semaines de boulot, ouais. Sans aucun doute.
Et puis les courses des différents intervenants pour aller d'un étage à l'autre, c'était très sportif aussi.
Oui, c'est ça. Bon, quoi qu'il arrive, rendez-vous mardi prochain dès 18h30 heure française sur iWeek.news, donc l'adresse du futur site d'iWeek, pour une édition spéciale d'iWeek la semaine Apple en direct et en vidéo. Vous pourrez nous voir, vous verrez comme on est beau, encore un peu bronzé en ce mois de septembre. Vous suivrez donc la keynote en intégralité avec nous et on répondra à toutes vos questions en direct avec le hashtag iWeekLSA. Une keynote dont vous retrouverez les meilleurs moments dans un épisode bonus de ce podcast dès mercredi matin. Et puis jeudi 20h, comme toutes les semaines, on sera au rendez-vous pour l'épisode 4 avec le débrief complet de cette keynote de rentrée. Alors, pas de mise à jour logicielle cette semaine, à part la troisième bêta publique de macOS Big Sur, on en parlait à l'instant, qui est attendue en version finale pour l'automne. Tu as quelque chose à ajouter, François ?
Oui, il y a une nouvelle bêta d'iOS 14 qui est sortie fraîchement mercredi soir, jour où nous enregistrons notre émission.
Bêta publique ou bêta développeur ?
Les deux, je crois, vu que maintenant ça doit être à peu près ajusté entre les bêta publics et les bêta développeurs.
Alors, si vous testez iOS 14, vous avez cette nouvelle bêta. On vous rappelle toujours, jamais sur une machine de production. Si vous avez un deuxième Mac ou un deuxième iPhone, vous pouvez vous permettre tester
les
bêta. Voilà, faire joujou, sauvegarde intégrale si c'est votre machine principale et unique. Par pitié, ne faites pas d'erreur majeure. On s'en voudrait et on serait désolé pour vous. Dans un instant, le test de la semaine, je vais vous faire écouter de la magie. À tout de suite. Le test de la semaine, si vous êtes musicien, si vous êtes podcasteur, si vous êtes journaliste, audio ou vidéo, si vous utilisez des enregistrements faits avec des micros, un jour ou l'autre, vous vous êtes forcément retrouvé avec un son saturé, un bruit de fond qui gâche tout, du vent, des postillons dans le micro qui donnent l'impression de petites explosions désagréables dans les oreilles. Vous avez forcément un jour rêvé de pouvoir réparer votre son. Et il y a un logiciel pour ça. Il est magique, c'est aussi pour ça qu'il n'est pas donné. Heureusement, il existe en trois versions et l'une des deux versions les plus abordables vous suffira peut-être. Ce logiciel, il s'appelle RX. RX, l'éditeur est californien, c'est Isotope et la version 8 vient de sortir. Elle s'appelle donc RX8 Element, Standard et Advance. Alors je vous donne tout de suite les prix, hein, comme ça on passe le mauvais moment. Comptez 99€ pour la version Element, 299€ pour la version Standard et 999€ pour la version Advance. En fait, je vous donne les prix en euros, mais c'est les prix en dollars. Il y a très peu d'écart entre les deux. Alors ça fait mal, hein, d'accord. Mais maintenant que c'est fait, on va passer à la magie et aux nouvelles fonctions. Si vous êtes guitariste, je vous présente Guitar Denoise. C'est un nettoyeur intelligent qui débarrasse les enregistrements des bruits d'ampli, des mouvements de doigts sur les cordes et même de l'impact du Mediator. En fait, RX8 va commencer par isoler ces bruits parasites. On peut même les écouter seuls, rien que. Bah, écoutez ce que ça donne. Bon, voilà maintenant le fichier brut, donc sur lequel il y a encore tous ces bruits parasites. Et puis voilà le fichier nettoyé par RX8. C'est magique. Plus aucun bruit parasite. Et ça se fait quasiment automatiquement. Il n'y a quasiment aucun réglage à faire. Le ronronnement d'un ampli de guitare. Je ne sais pas si vous avez fait de la guitare. Ça peut être atroce sur un enregistrement. On entend ce ronronnement en fond. Écoutez cet extrait où l'effet et le ronronnement de l'ampli est présent, puis disparaît en un clic. Et on va l'entendre plusieurs fois apparaître et disparaître. Vous savez ce que c'est qu'un Mediator, les garçons ?
Oui.
C'est un petit triangle en plastique qui sert à jouer de la guitare.
Quand on ne sait pas faire du picking.
Voilà, avec les doigts. Alors, écoutez, la première lecture, c'est le fichier brut, et la deuxième lecture, c'est le fichier nettoyé. Vous allez voir que l'impact du Mediator qu'on entend a complètement disparu. Autre fonction bluffante, celle qui permet à partir d'un fichier mixé de reséparer les instruments, les voix pour refaire un mix. Alors, petite démonstration, voilà le mix global. On applique l'effet, voilà maintenant juste les voix. La batterie. La basse et tout le reste. Autre exemple, le mix global. Maintenant, que les voix. Le reste, la basse, la batterie. Assez bluffant. Et puis, je voulais vous présenter un effet qui s'appelle Spectral Recovery, qui fonctionne à base d'intelligence artificielle. Ça revient pour de l'audio à transformer une VHS en 4K. Par exemple, vous partez d'un fichier son mauvais, très compressé, et en fait, vous allez lui redonner tout l'espace disponible, toute la largeur de bande disponible.
L'amplitude.
Voilà, toute l'amplitude. Ça pourrait être un fichier comme celui-là, un mauvais fichier.
He told reporters that the explosion had resulted in an estimated $3 to $5 billion in damage.
Et voilà ce que ça donne après le passage de Spectral Recovery.
He told reporters that the explosion had resulted in an estimated $3 to $5 billion in damage.
Voilà, et sur le spectrogramme, on voit les tranches du spectre qui manquaient et qui sont réinjectées par le soft. C'est vraiment assez saisissant. Voilà, des nouveautés qui s'ajoutent à ce qui existait déjà dans RX depuis des années. Le sauvetage des enregistrements saturés, la suppression du vent dans les micros, des clics parasites, et puis un mastering automatisé, notamment pour la sortie d'épisodes de podcast, comme iWeek, aux normes, et donc dans les règles de l'art. Bah pour conclure, hein, si vous êtes sérieux à propos du son, RX, pour moi, c'est vraiment un soft indispensable sur votre Mac de post-production audio. La version Element permet de sauver les sons saturés et de supprimer les clics. La version standard ajoute la suppression automatique de la respiration, ce qui est un gain de temps énorme. Et croyez-moi, je vais m'en servir avec vous. Et puis, elle ajoute aussi le guitar denoise notamment. Enfin, dans Advanced, vous avez tout, dont notamment le Spectral Recovery et la suppression du vent dans les micros. Voilà, pour moi, RX8 d'Isotope, c'est un 5 sur 5. Il manque juste une chose, c'est une vraie version d'essai. Elle existe et elle marche pendant 30 jours, mais on ne peut faire aucun export. Alors, jouer avec, c'est bien, mais c'est un peu court. En fait, c'est mon seul regret.
C'est dommage de supprimer le glissement des doigts sur le long des, le long des cordes, quoi.
Moi, je trouve ça bien, parce que maintenant, on n'a plus à s'inquiéter avec les bruits. On peut mettre le ventilateur à côté, tu le couperas derrière, donc c'est bon.
Et puis moi, je reste sans voix. Donc, tu as dû le laisser en marche, parce que devant tant de sons et de magie, je reste sans voix.
C'est assez impressionnant. Franchement, c'est un soft hors du commun pour moi. C'est tout nouveau, la veille produit dédiée à l'écosystème Apple. C'est avec toi, Ellie, la sortie des vacances, on peut dire, était très calme. Est-ce que l'IFA a enfin donné un petit coup de boost à la rentrée ?
Alors oui, peut-être pas dans l'écosystème Apple, mais pour tous ceux qui sont dans la tech et dans l'électronique grand public, c'est un rendez-vous incontournable. Hein. Je sais que toi-même, Benjamin, tu y vas régulièrement.
J'y allais, tant qu'on pouvait.
Oui, tant que c'était possible d'y aller. Cette fois-ci, ils l'ont fait dans une nouvelle forme, un peu virtuelle, assez originale. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je me suis quand même renseigné un peu. Hein. Donc, l'IFA, c'est en Allemagne, à Berlin. Et donc, ça veut dire, je vais essayer de vous le prononcer et
oh là
vous
là
me corrigerez, vous les spécialistes, en langue teutonne, car ça veut dire Internationale Funkausstellung. Tout le monde a compris, en général, on dit à vos souhaits. Et donc, c'est le plus grand salon technologique d'Europe. Qui se tient début septembre. Et donc, tous les grands fabricants, en particulier de téléviseurs, LG, Samsung, Philips, Sony, c'est à l'IFA qu'ils lancent leur gamme européenne. Et puis, il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui existe depuis 1924. Hein, donc, c'est pas nouveau. Hein.
Ce qui est fou, c'est qu'avec le Covid, en fait, ce qui est fou, c'est qu'en fait, l'IFA a été à peu près maintenu. C'est-à-dire qu'il y a des halls avec des stands. Mais en fait, il n'y avait quasiment aucun visiteur à part quelques journalistes.
C'est ça, en fait.
Truc de fou, les salles de conférences de presse étaient. On a vu des centaines de sièges vides. Dans les allées, personne, mais vraiment personne, comme si le salon n'était pas ouvert, quoi, alors qu'il était ouvert.
Et oui.
Très, très bizarre.
Mais en fait, au lieu d'avoir une foule, il y avait 800 journalistes accrédités. Je ne sais pas s'ils sont tous allés, hein, mais bon, c'est pour la taille de l'IFA, c'est quand même très petit. Alors, il y a eu des conférences de presse donc virtuelles, des fois depuis les sièges des sociétés. Hein, donc, un certain nombre, le PDG de Qualcomm était là, il y a eu des responsables de LG, il y a eu pas mal de monde. Alors, bon... On va faire très rapidement la liste pour que vous voyez quand même qu'il y avait des grands noms, même si nous, on les voit passer de loin. Acer était là, donc c'est dans le monde PC, mais ils étaient là, ils ont annoncé un peu du Intel Core 11e génération, comme Intel d'ailleurs. Asus, pareil, ils ont parlé de nouveaux téléphones, etc. Bon, très bien. Garmin, ça peut intéresser un peu tout le monde, parce que Garmin est une société qui conçoit des logiciels de GPS, qu'on peut utiliser un peu partout. Et la grande nouveauté de cette année, c'est qu'ils ont fait un dispositif de suivi et de coaching pour les pilotes de voitures de course et de rallye. Donc en fait, c'est un GPS qui donne des données et qu'on peut enrichir évidemment pour les gens qui préparent des rallyes. Donc c'est super rigolo. Et c'est un petit boîtier qu'on va coller sur le pare-brise et qui en plus va vous donner des tas de renseignements du style quelle est votre place dans la course, quel est le prochain virage s'il faut le passer à fond en deuxième ou etc. En espérant que vous ne le ratiez pas, parce que normalement, vous avez votre copilote qui vous aide à ça. Mais bon, admettons que ça évitera les erreurs du copilote et de voir des sorties de route impressionnantes. Donc ensuite, il y a l'incontournable Huawei qui était là, donc de plus en plus décrié en Europe, vu les sanctions américaines. Oui. Mais
pas
bon,
très Apple friendly, sauf pour les routeurs 4G, 5G.
Absolument. Les routeurs sont très bien. On sait que si vous utilisez un routeur Huawei, vos données vont en Chine, mais bon, après, ça dépend de l'importance de vos données.
C'est la crainte qu'ont beaucoup de gouvernements, effectivement.
Oui, sauf à Monaco, à côté de chez nous, où toute l'infrastructure 5G est 100% Huawei. Donc pour une principauté qui est basée sur le secret bancaire, on ne comprend toujours pas. mais bon, écoute, c'est comme ça. Alors, on va quand même rentrer un peu dans l'univers Apple, une petite bouclette, puisque JBL était présent. Et ils ont annoncé, évidemment, toute une série de produits qui, évidemment, tournent dans l'univers Apple, donc des chargeurs USB-C, des écouteurs et un certain nombre d'enceintes, hein, donc, voire même un produit qu'on va citer, qui est le Citation 200, qui est un haut-parleur intelligent, haut de gamme et compatible avec l'univers Apple, mais qui sera disponible en octobre, donc on n'a pas encore trop de détails sur le prix. Bon, Intel était là, mais ça aurait été très intéressant parce qu'ils ont annoncé des processeurs de 11e génération.
Oui,
sauf
c'est ce que je me disais. Quel intérêt
oui,
pour Apple,
Lake.
Parce que est-ce qu'il va encore y avoir des nouveaux Mac avec processeur Intel? Oui, quand même quelques-uns, non?
Oui, parce que la transition va durer 2 ans.
Mais avant,
ça aurait été l'énorme nouvelle de parler de la 11e génération. Maintenant, on sait que c'est un peu la fin des relations avec Apple. Donc, on a en 2 ans, donc on va peut-être voir la 12e et la 13e. Mais ces nouveaux processeurs sont gravés en 10 nanomètres. Ils ont des meilleures performances graphiques, car ils ont un nouveau GPU, bien sûr. Et ils prennent en charge la nouvelle norme Thunderbolt 4, dont on va certainement parler bientôt, le Wi-Fi 6, dont on a déjà parlé, et le PCIe 4, donc, dont on va parler aussi prochainement. Donc tout ça, c'est très intéressant. On pourra vous donner des updates si Apple les utilise. Bon, après, d'autres constructeurs, Lenovo, etc. Et puis on passe évidemment aux incontournables fabricants de téléviseurs dont on peut parler un peu parce qu'évidemment ça fonctionne dans l'univers Apple de plus en plus, hein, avec la compatibilité HomeKit, etc. Donc oui. LG, que vous connaissez bien, était là. Et LG, à part le masque donc pour nettoyer les virus, en fait, qu'on nettoie, dont on a déjà parlé, donc Puricare, qui était là, il y avait un certain nombre de choses, et en particulier, pour contredire les rumeurs du CES où LG avait dit non, le OLED 8K, pas tout de suite, ben en fait, si, le OLED 8K a été présenté à l'IFA, donc en fait, il le présente quand il est prêt et il prend en charge les nouveaux GPU Nvidia, donc compatible 8K, qu'on verra dans la PlayStation 5 en particulier. Donc LG, très 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 beau stand, et c'était d'ailleurs, je crois, les seuls où on pouvait faire une visite visuelle. En fait, ils ont mappé en réalité augmentée leur stand habituel à l'IFA, et vous pouvez vous balader dedans dans une maison virtuelle. Je vous conseille d'aller sur le site LG IFA ou sur le site de l'IFA, et il y a aussi le lien vers LG, et vous pouvez découvrir des téléviseurs, des lave-vaisselle, des climatiseurs, enfin tout ce que fait LG en réalité augmentée. C'est assez chouette. Ensuite, ça nous intéresse à nouveau dans l'univers Apple, Philips Hue, puisqu'on en a parlé. Maintenant, le nom de la société, c'est Signify, parce qu'il y a toujours des noms commerciaux. Donc, ouais. Ils ont annoncé des petits produits à l'IFA, donc une petite bande lumineuse dégradée. Donc, vous savez qu'avant, ils avaient ça s'appelait un light strip. Mais là, la différence, c'est que les diodes ont été décalées pour pouvoir faire des effets. Donc, c'est des diodes RVB décalées, de façon à ce que le petit boîtier de synchronisation, dont on a parlé aussi, puisse synchroniser ces lumières. Et la caractéristique, c'est qu'elles ne sont faites que pour être collées derrière un téléviseur. Et ils les vendent en 3 tailles d'écran. Donc, ça va jusqu'aux 65 pouces et ça coûte entre, il y a différents prix, mais ça va jusqu'à 179 €, ce qui est quand même un peu cher, mais ça donne les effets Ambilight, pour ceux qui connaissent Philips, sur n'importe quel téléviseur. Et puis, évidemment, Philips était là, avec un certain nombre de produits, ensuite, On finit, et ça sera la fin, par deux grands acteurs, Sony, qui était bien sûr là, avec pas mal de produits, y compris des téléphones, bien sûr, et Samsung, qui est... En fait, c'est très rigolo, Samsung, parce qu'en fait, ils ont annulé leur présence à l'IFA, donc ce qui a surpris tout le monde, mais après l'avoir annulé, ils ont fait des grosses annonces à l'IFA. Donc, sans être là, mais bon, ils ont fait des grosses annonces, un peu de tout, du Galaxy Tab, des Galaxy Fit, de nouveaux téléviseurs, 8K, et deux produits qui sont devenus mon coup de cœur de la semaine et dont je vous parlerai juste
tout
à la fin de l'émission.
Merci Ellie pour ce tour d'horizon de l'IFA à Berlin, un IFA très particulier en cette année de Covid. Si Gilles Dounès, ici présent, organisait un dîner, y aurait déjà autour de la table Tim Sweeney, le patron d'Epic Games et de Fortnite, et Mark Zuckerberg, Facebook, épinglé la semaine dernière. Je ne sais pas si j'aimerais être là, parce que la connerie de la semaine, c'est ton coup de colère hebdo, Gilles. Et aujourd'hui, c'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui va en prendre pour son grade. Alors, il a assisté mardi à un pince-fesse organisé par la présidence de la Commission européenne autour de la compétitivité européenne dans le secteur du numérique. Et Bruno Le Maire, il s'en est pris notamment à Apple et aux autres géants de la tech, Gilles.
Exactement, avec une philippique à propos de l'extrême concentration de certains marchés en Europe. Un tout petit nombre de très grosses plateformes internationales qui accaparent, rien que moi, la majorité des profits. Et notamment Apple, dont la capitalisation boursière dépasse à présent l'ensemble des sociétés du CAC 40. Le maire a également déclaré qu'il y a un problème de compétition quand ces sociétés développent des stratégies pour verrouiller leurs utilisateurs dans leurs services et leur écosystème. Je ne sais pas toi, mais Benjamin, mais moi je me suis senti un petit peu visé. En ligne de mire, bien entendu, la problématique de l'App Store et ses 30% de commissions prélevées sur les achats inter-applications.
Mais on en revient presque un peu à l'affaire Fortnite. Qu'est-ce qui t'énerve là-dedans? Parce que c'est pas nouveau.
C'est justement ça qui m'énerve. On dirait que le maire ou ses conseillers ont découvert tout d'un coup que la pluie, ça mouille. C'est le principe même d'un écosystème. La franchise, la concession automobile, le centre commercial avec ses boutiques tout autour. Il s'agit de faire fonctionner ensemble plusieurs éléments en synergie avec un certain nombre de partenaires autour qui bénéficient du système que vous avez mis en place et qui paient une redevance en retour en échange de services supplémentaires. C'est même pas un jardin fermé, comme dit le ministre, c'est le mode fonctionnement de l'apiculteur qui offre une ruche aux abeilles et qui déplace les ruches au fur et à mesure de la saison, afin de garantir une alimentation variée à ses essaims. En retour, il va récolter une partie du miel, du moins quand le gouvernement n'autorise pas les insecticides néonicotinoïdes. Puis en matière d'écosystème fermé, avec le succès de l'application Stop Covid, le gouvernement français se pose un peu là.
Bon. Ça, c'est fait, Gilles, mais il n'est pas le seul à dire ça. Il y a une enquête préliminaire de la Commission, de l'autorité de régulation allemande, italienne, japonaise, bref, on est loin d'être le seul.
Précisément. On dirait que le ministre est à la ramasse et qu'il essaie de se rattraper en s'agitant plus fort que les autres. Il a réclamé un outil de régulation européen qui vise particulièrement les acteurs en état de position dominante. Et c'est bien gentil, mais ce genre de fonctionnement, il est à la base de l'industrie numérique. On construit une ruche, un kit de développement logiciel, et on incite les acteurs du secteur à venir travailler autour de cet écosystème. C'est ce qu'ont fait des acteurs européens comme les Français Weezing, qu'on connaît bien, et Netatmo, on va en parler tout à l'heure, dans le secteur des objets connectés, avec leur propre kit de développement logiciel, pour que d'autres puissent venir les rejoindre. Mais ils ont travaillé également de façon transversale avec toutes les plateformes, Apple, Google, Amazon, également les standards ouverts. Les Américains ont d'ailleurs annoncé qui travaillait à une plateforme commune, ouverte. On va en parler tout à l'heure également.
Et donc, Gilles?
C'est le système des traités de la concurrence libre et non faussée qui a créé les conditions au niveau européen. Et si vraiment le gouvernement français voulait favoriser l'émergence de champions européens dans le secteur, il aurait pu commencer par choisir OVH pour héberger les données médicales confidentielles des Français dans le futur passeport santé. Ils ont pris Microsoft alors que OVH était dans la shortlist.
Bon, ce sera tout, Gilles.
On a un excellent commissaire européen français en charge du numérique qui s'appelle Thierry Breton et qui a sauvé France Télécom au début des années 2000 quand l'entreprise était au plus mauvais, en très mauvaise posture. Je crois que ça serait pas mal de le laisser travailler, en fait.
Merci beaucoup, Gilles, pour ce petit coup de gueule. Dans un instant, comment économiser en tirant moins sur les ressources de la planète grâce à un thermostat connecté? François va tout nous dire. Ne bougez pas. L'été est derrière nous et dans un mois, les chauffages vont recommencer à chauffer. Si vous voulez intégrer la domotique côté chauffage, c'est le moment et c'est ton sujet de la semaine, François, dans Ma Maison Connectée ou comment transformer votre logement en maison ou appartement intelligent. Et donc François, aujourd'hui, tu nous parles de thermostat connecté. Raconte-nous.
Et oui, hélas, nous allons rentrer dans l'automne puis l'hiver et il faudra commencer à chauffer. Histoire de ne pas tomber à 15-16 degrés. Quand j'ai emménagé dans mon appartement, je me suis dit, c'est quand même pratique le thermostat. Le thermostat d'ambiance, le principe de base, c'est on a un petit boîtier qui est relié à la chaudière et on lui indique quand est-ce qu'on veut que la chaudière chauffe, quelle température on veut avoir. Vous partez, vous pouvez le couper, etc. Je me suis dit, ce serait intelligent. Mais ce qui serait encore plus intelligent, c'est de pouvoir en trouver un modèle qui soit connecté, qui soit pilotable à partir du téléphone. Dans l'idéal, à partir de HomeKit. Et il y a plusieurs marques qui sont sur le marché. Moi, j'ai fait le choix de Netatmo, qui a sorti un thermostat connecté il y a un paquet d'années maintenant. Il y a au moins 6-7 ans, je pense. Ouais. Et il y a d'autres marques comme Tado. Je sais que Gilles l'utilise. Il pourra nous en dire un mot tout à l'heure. Voilà. L'idée, c'est de vous présenter ça et pourquoi ça a un intérêt.
Alors, comment ça marche un thermostat connecté, François, et comment est-ce qu'on le relie à sa chaudière?
Alors déjà, moi, dans le cadre de mon appartement, c'est une chaudière au gaz de ville. Maintenant, ce type de thermostat, vous pouvez le brancher aussi sur un chauffage électrique, sur une cuve de fuel, etc. On peut vraiment le brancher sur n'importe quel système. Donc le système de Netatmo, lui, il est composé de deux boîtiers. Il y a un petit boîtier qui est relié directement à la chaudière. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez tenter de le faire vous-même. Il y a juste trois fils à relier, en fait, des fils pilotes. Maintenant, je vous conseille quand même de faire intervenir un professionnel. Généralement, vous êtes obligé de faire venir quelqu'un pour vérifier votre chaudière tous les ans. Donc, pourquoi pas en profiter pour lui demander d'installer le petit boîtier. Et il y a une deuxième télécommande qui se présente comme un thermostat classique qu'on peut fixer sur le mur ou alors qu'on peut poser sur une table. Ou moi, dans l'occurrence, il est sur ma table de salon. L'avantage du système Netatmo, c'est qu'il est composé d'un écran e-Link. Comme les Kindle d'Amazon, ça consomme très peu. Depuis 4 ans que je l'ai, j'ai dû changer les piles une seule fois. Ah oui. Il n'est pas aussi esthétique qu'un Nest. Quand j'ai acheté le produit Netatmo, il y avait Nest de Google qui me tentait bien parce que esthétiquement il était hyper joli. Maintenant, il est plus cher et surtout, il n'est pas compatible avec HomeKit en natif. Et moi, ce que je voulais, c'était avoir quelque chose qui soit compatible HomeKit pour pouvoir éventuellement demander à Siri de régler directement la température. Le petit boîtier, il y a juste un plus ou un moins. Vous avez la température actuellement dans votre appartement ou dans votre maison et vous avez la température qui va être ciblée. Vous faisiez plus ou moins.
Vous faites, tu veux dire?
Oui, vous faites, oui. Ah, il fallait bien que je le dise au moins une fois, c'est fait. Vous faisiez bien, monsieur Benjamin, de me reprendre. Et donc, il y a deux températures qui sont affichées sur le boîtier. Vous avez la température actuellement dans votre maison et vous avez la température qui va être visée derrière. Une fois que vous l'allumez, vous le branchez, vous avez le code HomeKit qui va apparaître. Ça, on n'en a pas encore parlé. La plupart du temps, dans 99,9% des cas, quand vous voulez rajouter un produit à HomeKit, en fait, vous avez un petit code à 9 chiffres qui est à scanner avec votre iPhone. Vous posez l'iPhone sur le petit code, il le scanne, et c'est comme ça que vous allez pouvoir rajouter le thermostat connecté Netatmo et d'autres produits à votre maison. Et vous allez donc pouvoir, avec ce boîtier, piloter la température, soit avec l'application maison de l'iPhone ou de l'iPad, soit directement sur le boîtier avec le plus et moins, ou alors éventuellement aussi à la voix. Et c'est tout. Mais le seul problème, comme on l'a déjà évoqué un certain nombre de fois avec Ellie, c'est que HomeKit est quand même relativement limité.
Pourquoi tu dis ça, François ?
Bah parce que ce qui serait intéressant, en fait, tout bêtement, c'est de pouvoir programmer un vrai planning. Pour ça, si vous souhaitez vraiment spécifier directement la température en fonction de l'heure de la journée, etc., il faut que vous utilisiez directement l'application Netatmo, qui est très bien faite. Vous pouvez gérer un planning, deux plannings, trois plannings, vous pouvez modifier les horaires, vous pouvez... Moi, par exemple, j'ai un planning quand je suis en vacances, j'ai un planning quand ma compagne est à la maison et que moi, je suis à l'extérieur, etc. Et tout se pilote directement en fonction de plage horaire. À distance, on décide de pas rentrer ce soir finalement, bah, plutôt que demander à ce que la chaudière chauffe à 20 degrés pour 19h, on se dit on va rentrer à 22h, donc directement avec l'application, je lui dis bah, finalement, tu chaufferas qu'à 22h. Ce qui vous permet vraiment d'économiser de l'argent et de surtout écologiquement, c'est quand même beaucoup mieux. La dernière petite chose qui est sympa aussi avec Netatmo, c'est que tous les mois, vous recevez un petit bilan de votre consommation de chauffage, et vous avez aussi la consommation que vous avez faite l'année dernière. Et ça, c'est intéressant pour voir l'évolution, savoir si on chauffe plus ou moins. Et il y a même moyen de l'intégrer directement à une application de votre fournisseur d'énergie. En l'occurrence, moi, c'est Engie, et j'ai pu relier mon thermostat à Engie, ce qui fait qu'il y a un suivi en direct de la consommation.
Ellie, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, je voulais juste compléter ce qu'a dit François. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas une chaudière ou un chauffage centralisé et qui avaient par exemple des radiateurs électriques, c'est ce qui est mon cas, il existe des solutions équivalentes basées sur le fil pilote, entre autres. Et donc la compatibilité HomeKit n'est pas encore arrivée, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé, mais je pense qu'elle va pas trop tarder, parce qu'il y a des gens comme Enki qui se sont rapprochés de ça. Et le principe est le même, donc on peut programmer un planning, on peut choisir une température, etc. Et juste à titre d'exemple, moi depuis que j'ai installé ça, j'ai divisé par deux ma consommation électrique, par deux, c'est énorme.
François, ton bilan du coup, est-ce que tu valides, est-ce que tu achètes? D'ailleurs, tu as déjà acheté, mais et puis ça coûte combien?
Alors moi, honnêtement, je regrette pas du tout l'investissement, en dehors de l'aspect geek, hein, enfin, là, vous vous en êtes déjà rendu compte, j'en suis un. J'ai vraiment vu une diminution au niveau de ma facture de gaz. De mémoire, je dirais entre 15 et 20% minimum. Ça apporte un vrai confort de pouvoir piloter. Ouais, c'est énorme. Ouais, j'ai diminué de quasiment 100-150 €, donc c'est pas négligeable. Et c'est surtout un vrai confort, en fait. Finalement, on se dit, on devait rentrer de week-end à 17h, on rentre à 15h, et ben directement, on programme à distance. C'est vraiment pratique, écologique, économique. Et le prix, alors il y a des promotions régulières sur un site avec un joli sourire, mais vous pouvez l'acheter ailleurs. Je sais que les revendeurs Apple l'ont aussi, donc je pense qu'Eli, tu l'as peut-être en magasin.
Peut-être. Pas en stock, mais on peut le commander.
Ouais. Ça coûte aux environs de 170 €. En un an ou deux, vous allez avoir rentabilisé l'investissement si vous n'avez pas de thermostat connecté ou de thermostat tout court. Donc n'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine.
Merci François. Je crois que tu voulais ajouter un mot, Gilles.
Oui. C'est Netatmo a été repris par l'équipementier du bâtiment Leblanc. Donc c'est totalement sécurisé.
Leblanc, c'est dans le dîner de
quoi ?
Le grand, ta chronique, Gilles.
Je n'y arriverai jamais.
Monsieur Pignon, non, c'est le grand et pas le blanc.
Voilà.
Juste le grand.
C'est ça, c'est juste le grand. Donc oui, tu fais bien de le préciser, Gilles. Le grand a repris Netatmo. On va y arriver.
Voilà. Et il y a, on parlait de Tado tout à l'heure. Ils ont un truc très intéressant dans l'application, c'est qu'il sait vous renseigner l'iPad ou l'iPhone de la maison, ou Android, hein, et quand vous partez, il peut baisser la température à 16 degrés ou 14 degrés, ce que vous lui indiquez, et quand vous rapprochez du domicile, il recommence à faire monter la température. Alors, si vous n'êtes pas loin en ville, c'est vite fait, mais si vous êtes en week-end ou en vacances, il commence déjà à faire monter la température de façon agréable avant que vous soyez rentré. Sur le fonctionnement général aussi, il regarde, il y a un algorithme, que ce soit chez Tado ou chez Netatmo, il y a un algorithme qui regarde ce que la chaudière fournit comme énergie, il regarde ce qu'il sort, il en déduit ce qui sort par rapport à la météo, et du coup, il adapte un algorithme spécial à votre logement, et c'est l'équivalent d'une conduite souple et d'une conduite économique où on évite de piler devant le feu rouge et on lève le pied en regardant en avant si le feu est orange ou s'il est rouge, on évite de freiner et de redémarrer au dernier moment.
On s'arrête toujours au feu rouge quand même.
Tout à fait, mais oui. On remet de la chaleur quand il fait froid, mais on le fait de façon beaucoup plus souple et on évite ainsi de trop tirer sur la chaudière et d'augmenter la consommation.
Voilà, donc Tado, Netatmo, voire Nest, vous avez le choix. François, tant que je te tiens, on a souvent parlé de la jungle des standards en domotique, mais cette fois, j'ai l'impression qu'on tient peut-être enfin le standard universel, puisque si j'ai bien compris, tous les grands sont en train de se mettre d'accord. Apple, Google, Amazon, IKEA, Legrand, Somfy, la Zigbee Alliance. Ça s'appelle l'initiative CHIP, Connected Home Over IP. Est-ce qu'on peut dire Alléluia ?
Je pense que c'est bien qu'ils décident enfin à créer une norme standard. Ça n'empêchera pas qu'on continue à utiliser l'application Home, l'application Maison sur l'iPhone, parce que l'idée, c'est juste que ce soit le standard de connexion qui soit universel, mais après, chacun pourra utiliser son application. Maintenant, ça va être clairement un gros plus. C'est ce qu'on avait évoqué à la première émission quand on a parlé d'HomeKit. HomeKit est beaucoup moins répandu que les systèmes Google, par exemple, ou Amazon, et je pense que ça peut vraiment donner un coup de boost à HomeKit pour Apple, donc je trouve ça très bien qu'Apple se soit intégré à ce mouvement.
En tout cas, les spécifications devraient être publiées d'ici la fin de l'année, et la V1 est attendue dans le courant de l'année 2021. Le tuto audio dans iWeek, la semaine Apple, le podcast, ça va être rapide aujourd'hui parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que de dépenser 5,49€ pour cette app assez épatante pour iPhone. Son nom, Just Press Record, autrement dit, appuyer simplement sur enregistrer. En fait, j'ai tout dit, c'est presque terminé. Cette app, c'est juste le meilleur dictaphone que j'ai trouvé sur iPhone et sur Apple Watch avec une appli dédiée. En fait, il suffit d'un clic ou d'un raccourci Siri pour lancer l'enregistrement. L'appli permet de faire du montage audio. Elle retranscrit en fichier texte à partir de 30 langues, dont le français sans limitation de durée. Elle exporte jusqu'à 96 kHz en 24 bits au format WAV, AIF ou AAC. Elle peut même stocker les fichiers directement sur votre iCloud Drive. Bref, une petite tuerie, Just Press Record, que j'ai découverte dans le dernier numéro de l'excellent magazine iCreate, numéro 171 de septembre, avec un grand guide d'achat en couverture et le top des apps dont on ignore l'existence pour Mac, pour iPhone et pour Apple Watch. iCreate désormais aussi dispo en version numérique, et ça c'est vraiment génial, notamment pour tous les francophones qui vivent hors de France. J'en profite pour faire une grosse bise avec vous les amis, à tous ceux parmi vous qui nous écoutez depuis la Suisse, la Belgique, la Polynésie, les Antilles, le Maghreb, l'Afrique, le Québec. Merci pour votre fidélité. Je le répète, abonnez-vous à iWeek, la semaine Apple, le podcast. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et écrivez un petit avis. Quelques mots sympas et bienveillants, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. C'est bientôt la fin de cet épisode 4. C'est le moment de nos coups de cœur de la semaine. François, je crois que c'est un bracelet qui te fait craquer.
Oui, c'est un bracelet alors qui est sorti il y a quelques mois déjà, mais que je viens juste de récupérer, que j'ai pu me procurer grâce au revendeur Apple du coin. C'est le bracelet Nike Pride. Tous les ans, Apple sort des bracelets Pride pour la cause LGBT. Et donc du coup, cette année, ils ont sorti un bracelet hyper sympa. Donc c'est le bracelet classique Nike avec les petits trous. Et les petits trous, en fait, sont de la couleur de l'arc-en-ciel. Alors, c'est pas sorti cette semaine, c'est sorti il y a quelques temps, mais je le trouve vraiment sympa et il fait parler les gens. Beaucoup de gens m'ont dit « Ah, il est sympa ton bracelet », etc. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de soutenir la cause. Donc c'était mon coup de cœur de la semaine.
Super, François. Élie, tu ne quittes pas les nouvelles télé laser de Samsung des yeux. Elles étaient présentées à l'IFA, justement.
Oui, absolument. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une TV laser ou une laser TV, je renvoie aux multiples tests que fait notre excellent confrère Pépé Garcia, que nous saluons, et qui en parle tout le temps. Eh bien, une TV laser, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un vidéoprojecteur UST ? Est-ce que vous savez ce que c'est ?
Non.
Eh bien, pour ceux qui ne savent pas, UST veut dire Ultra Short Throw, ce qui veut dire, en bon français, projecteur à ultra courte focale. C'est-à-dire que vous connaissez tous les vidéoprojecteurs, on les met au milieu du salon ou au plafond et c'est pas esthétique du tout, donc votre femme vous fait une vie impossible, et vous, vous aimerez bien regarder vos films ou vos matchs de foot préférés sur un très grand écran. Eh bien, l'UST est là pour vous, c'est-à-dire que c'est un vidéoprojecteur que vous allez placer sur votre commode, sur votre console de salon, pratiquement contre le mur, et il est capable, avec 15 à 20 cm d'écart par rapport au mur, de vous projeter une image qui va faire entre 120 et 150 pouces, c'est-à-dire ça va faire du 2,40 m à 3 mètres de diagonale, ce qui est énorme. Donc, je vous...
Oui. Tu es un escroc, parce que tu m'as vendu les télé-lasers de Samsung et tu me présentes des vidéoprojecteurs à ultra courte focale.
Mais c'est exactement ça, parce que une télé-laser chez Samsung et chez les autres, c'est un vidéoprojecteur à ultra courte focale. Ils appellent ça maintenant des laser TV. Pourquoi ? Parce qu'ils essayent de placer ça comme des téléviseurs, et vous allez comprendre, chez Samsung, ça s'appelle The Premiere, parce que c'est une première chez eux.
Ah ouais.
Et donc, c'est... projecteurs, en fait, comprennent pour la première fois dans l'histoire un certain nombre de caractéristiques qui les font devenir des téléviseurs à part entière, à savoir. La première, c'est que chez Samsung, ils reprennent le système d'exploitation Tizen, qui est utilisé dans toutes leurs télévisions, que ces téléviseurs arrivent avec une prise antenne, ce qui va permettre, ces téléviseurs laser, oui, donc ces vidéoprojecteurs, qui va leur permettre de diffuser toutes les chaînes de la TNT. Ce sont évidemment des téléviseurs connectés avec toutes les applications, Disney+, Apple TV+, etc., 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 comme ils savent très bien le faire. Et c'est pour ça qu'ils appellent ça des laser TV. Voilà, et on vous fera un test un peu plus complet. Moi, j'en ai un de marque chinoise parce que c'était la seule chose que je pouvais acheter à ce prix-là. Mais si jamais il y a des gens de Samsung ou LG qui nous écoutent et qui veulent bien qu'on leur fasse un test complet... de ces laser TV, nous sommes preneurs et nous sommes prêts à faire un test ultra complet de ces produits qui sont le futur de la télévision aujourd'hui dans vos salons.
Bon bah écoute, en tout cas c'est un mélange des genres qui a l'air intéressant en tout cas. J'ai hâte aussi d'en savoir plus sur ces TV laser. Bah de mon côté, moi mon coup de cœur c'est pour la version 14 de Wirecast qui est arrivé il y a quelques jours. Alors, si vous streamez, autrement dit, si vous faites du direct sur YouTube, sur Twitch ou Facebook, vous utilisez forcément l'une des quelques applis spécialisées comme Wirecast, mais aussi OBS, XSplit ou VMix. Wirecast, en fait, c'est un tout-en-un qui fait à la fois la réalisation, ce qui veut dire qu'on peut switcher, comme on dit, d'une caméra à l'autre, le stream, donc on diffuse vers là où les plateformes de son choix, comme Twitch, YouTube, etc., et l'enregistrement, donc on peut enregistrer sur son Mac ce qu'on réalise, donc typiquement quand on fait une keynote, on enregistre ce mix en fait, ou alors on peut aussi enregistrer chacune des sources, chacune des caméras séparément, ce qui permet après de refaire un montage, et ça on appelle ça un enregistrement ISO. Alors quoi de neuf dans cette version 14 de Wirecast ? Ben, y a 3-4 points qui vont tout de suite vous parler les amis, parce que c'est exactement les problèmes qu'on a rencontrés, notamment au mois de juin avec la keynote de la WDC. Bon d'abord, il y a un meilleur chroma key, autrement dit l'intégration devant un fond vert, le découpage est annoncé comme beaucoup plus précis, il y a moins de bavures, bref, on va le vérifier. Beaucoup plus parlant pour vous, un soft moins gourmand en ressources et plus stable avec des sources NDI, autrement dit des sources qui passent par le réseau. C'est très pratique, mais on a bien vu que ça plombait le processeur du Mac lors de cette dernière keynote du mois de juin. Autre nouveauté, la fin promise du redimensionnement aléatoire de la taille des fenêtres. On en avait aussi fait les frais pendant la WDC. Voilà, ce sera un test à suivre dans iWeek la semaine Apple, le podcast, et sur le futur site iWeek News, c'est promis. C'est la fin de cet épisode 3 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Abonnez-vous, parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos collègues, à vos femmes, à vos maîtresses. Followez nos comptes sociaux sur Twitter, sur Insta, sur Facebook. Retweetez et partagez-nous. iWeek LSA, c'est le hashtag incontournable. On est à votre écoute entre chaque épisode pour répondre à vos questions et tout simplement pour échanger avec vous avec le plus grand plaisir. Il s'appelle Elia Bitbol, Gilles Dounès, François Le Truédic et Jean-Christophe Vigne qui nous a fait faux bond, mais c'est pas grave, il est pardonné. D'ailleurs, il sera de retour dès la semaine prochaine. Je m'appelle Benjamin Vincent, nous sommes la Team iWeek, la semaine Apple, le podcast. Nous sommes numéro 1 sur Apple Podcasts grâce à vous. Alors on ne lâche rien et on se donne 3 rendez-vous. Mardi, 18h30, pour la spéciale keynote Apple du 15 septembre, en direct et en vidéo sur iWeek.news. Deuxième rendez-vous, mercredi matin, un épisode bonus du podcast avec les meilleurs moments de la keynote et de notre iWeek spécial en audio. Et puis jeudi, vers 20h, on se retrouve comme toutes les semaines pour l'épisode 4 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Salut les amis.
Salut à la semaine prochaine à tous.
Tu es là, Gilles ?
J'ai dit salut, Benjamin.
Ah, d'accord. Salut, Gilles. Salut, Élie. Salut, François. Bon week-end. Bonne semaine à tous. Salut et à la semaine prochaine.